Les sentiments, c'est pas personnel, c'est l'homme qui est sentimental. Tellement d'hommes pour quelques idées. Les idées, c'est pas personnel, c'est l'homme qui est idéal. Pourquoi vous avez écrit cela, François Cervantes ?
J'ai écrit ce texte il y a plusieurs années. C'était au moment où j'écrivais une pièce qui s'appelait La Terrasse ou les soirées de Junko, et où il y avait un personnage de compositeur, de compositrice, une femme d'origine orientale. Donc c'était une série de carnets fictifs et c'était beaucoup une réflexion sur la musique. D'exprimer que les mêmes sentiments sont éprouvés par des personnes différentes et circulent d'une personne à une autre, et de la même manière pour les idées, on a tendance à s'identifier aux sentiments qu'on éprouve, à la joie, à la tristesse, à la jalousie, et que finalement ce sont peut-être comme des couleurs primaires, des essences qui nous traversent et puis qui ensuite repartent vers d'autres. Et les idées, pareil, on dit facilement « j'ai une idée » sans se dire qu'on pourrait sentir qu'on accueille une idée. Moi, dans l'écriture, j'ai souvent l'impression que les idées viennent dans les têtes de ceux qui leur serviront.
Petit préambule consacré à François Cervantes pour démarrer votre chronique dédiée au théâtre et à la danse. Éteignez vos portables. Aujourd'hui, nous allons parler de deux spectacles qui seront présentés au théâtre Massalia de la Friche de la Belle de Mai à Marseille, dans la salle de la Cartonnerie. Un amour du 2 au 13 février et Les clowns du 16 au 27 février. Les textes de ces deux pièces sont signés François Cervantes et je recevrai également Catherine Germain qui a créé et interprète le premier spectacle Un amour avec le chorégraphe Thierry Tugnang. Catherine Germain, quant à elle, joue aussi dans le deuxième spectacle Les clowns. Je rappelle aux auditeurs que vous, François Cervantes, vous êtes auteur, mais aussi metteur en scène, acteur, et qu'en 1986, vous avez créé la compagnie L'Entreprise, dont vous êtes le directeur, et qu'avec elle, vous avez créé pas moins d'une quinzaine de spectacles, et tout cela sans attache à un lieu en particulier. Il y a 6 ans, vous avez décidé de vous lancer dans une aventure collective avec le théâtre Massalia et le système Friche Théâtre, avec l'idée d'instaurer la permanence d'une équipe et d'une troupe et la création d'un répertoire. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et surtout pourquoi vous avez fait ce choix ?
Mais au début, quand j'ai quitté une formation d'ingénieur et que je me suis dirigé vers le théâtre, je suis parti pendant 1 an à Montréal et je voyais un carrefour, soit je m'en allais vers l'écriture, la solitude, l'écriture de romans, et que j'ai choisi le théâtre. Et le théâtre, c'est assez désordonné, c'est assez brouillon, c'est des fois une tentative ou un désir de faire de l'art, mais finalement on se côtoie beaucoup avec les autres, c'est assez vulgaire, c'est ça la beauté du théâtre, c'est une tentative, un désir. Mais ça n'est pas un acte individuel, solitaire.
Vulgaire, vous dites ?
Oui, enfin, c'est-à-dire que les choses les plus belles peuvent côtoyer les choses matière la plus brute, c'est la beauté du théâtre.
Mais en même temps, c'est très rigoureux aussi.
Ça demande une rigueur, c'est une tentative de rigueur, mais on travaille avec le corps humain sur le plateau et on est tout le temps confronté au groupe, donc la création de la troupe, c'était la création d'une aventure collective. Et puis qu'ensuite, on a tourné beaucoup en France, à l'étranger, et qu'au bout d'un moment, ces tournées-là, elles apportent énormément, on connaît d'autres cultures. Il y a aussi des limites à cette expérience, c'est qu'on rencontre des gens pendant quelques jours, et puis on s'en va, et on ne sait finalement pas quelle sera la suite de cette rencontre-là. Donc il y avait l'envie de s'ancrer, de s'ancrer davantage sur une terre.
À Marseille.
Et ça a été Marseille. Et donc de tenter une aventure. Et après, c'était de se sentir mieux dans une aventure collective. C'est-à-dire dans un endroit où il y avait d'autres gens qui faisaient d'autres choses que d'être dans un endroit clos où on aurait été seul.
Par exemple ?
On est arrivé à Marseille, on avait un local de répétition qui n'était qu'à nous, donc un lieu où on ne voyait personne, sauf si les gens venaient sonner à la porte, et que moi je me sentais mieux dans un endroit où il y avait du passage, des frictions, des rencontres de hasard, ça me paraissait plus vivant.
Et là, vous avez donc rencontré Philippe Foulquier, le directeur de Système Friche Théâtre et du théâtre Massalia. Comment s'est déroulée l'histoire de cette création collective ?
Mais on se connaissait déjà, donc ça a été, j'ai émis le désir, j'en ai parlé à Philippe, on s'est rencontrés, on a pris du temps, savoir où on était la friche, où on en était nous, mais je savais que si c'était venir à la friche, c'était pour tenter l'ancrage à Marseille et tenter des longues représentations. Je me disais, à Marseille, peut-être il est possible de jouer 6 mois par an, par exemple.
Déjà, ça a été l'idée de départ.
Oui, c'était un peu la ligne d'horizon. Peut-être il y a le potentiel de public, peut-être il y a l'énergie possible. Et donc, de travailler plus sur un répertoire, de continuer des rapports de fidélité, parce qu'ils y étaient déjà dans la troupe, mais de tenter une aventure où le répertoire se constitue et il y ait un rapport avec le public qui soit d'une autre nature qu'en tournée. En tournée, quand on joue une semaine, c'est le bout du monde, et puis après on repart.
Et vous êtes satisfait du résultat aujourd'hui, 6 ans après? Est-ce que vous estimez avoir réussi votre pari?
Bon, on ne réussira jamais. J'ai toujours très envie de tenter ça et ça répond. C'est-à-dire ça change nos pratiques artistiques, ça a apporté beaucoup aux comédiens et il y a un rapport avec le public qui est entièrement différent. Et depuis 2 ans, il y a beaucoup de directeurs de théâtre qui ont envie de pencher dans cette direction-là. L'année prochaine, on va aller jouer pendant 15 jours à Foix dans cette ville. La scène nationale n'a jamais fait de série aussi longue. Ils ont envie, pour essayer de bousculer les codes et pour essayer de bousculer les rendez-vous avec le public.
Et est-ce que ça peut faire du bien au théâtre ?
Moi, je trouve ce que ça fait du bien, c'est que ça remet de l'artisanat et ça s'éloigne un petit peu de l'événementiel. Donc c'est une pratique, c'est toujours très agréable quand les acteurs répètent dans la journée, jouent le soir ou sont en formation, ensuite en répétition et puis en jeu, que les acteurs ont 4, 5, 6, 8 pièces dans la mémoire et qu'on passe de l'une à l'autre. Ça fait plus la sensation d'un peintre qui serait dans un atelier et qui a des dizaines et des dizaines de toiles qu'il a sous les yeux, d'autres qui sont en chantier et qui peut passer de l'une à l'autre.
Vous aimez aussi confronter la création et la tradition dans votre travail, notamment avec l'apport des masques. Comment vous travaillez là-dessus ?
Ben, j'ai été chahuté par des choses, c'est des incitations. Quand j'ai commencé à travailler sur la figure de l'ange et qu'elle est devenue sur scène la figure du clown et qu'ensuite on m'a demandé d'aller travailler au Centre National des Arts du Cirque, le Cirque Plume ou Arcaos m'ont demandé d'aller travailler avec eux, que j'ai enseigné ensuite à l'école du cirque, je ne l'avais pas prévu. C'était pas prévu pour un auteur contemporain d'aller se perdre dans des sentiers comme ça, mais je me suis retrouvé dans des formes très anciennes et qui interrogent le théâtre, des formes qui existent depuis très longtemps. Quand le Didier Moutura, qui est directeur de théâtre, m'a dit « si tu veux, tu reprends le flambeau avec toute une collection de masques et un enseignement », et que je suis parti en Indonésie, puis
c'était
au Japon.
Quand, ça c'était, à quel...
c'était il y a une quinzaine d'années, une douzaine d'années peut-être. Donc forcément, j'étais complètement sans outils face à ça, fasciné et avec une intuition. Mais après, ces voyages en Extrême-Orient, puis en Afrique, m'ont soulevé encore d'autres questions. Et la tradition, c'était pas tellement par rapport à la forme du théâtre, mais la place que le spectacle pouvait avoir dans une communauté. En Indonésie, il y a des gens avec qui on a travaillé, avec qui on a fait des créations, mais qui ont des responsabilités à l'intérieur de la communauté, qui sont des responsabilités spirituelles. Donc j'étais très troublé par ça, parce qu'ici on l'a pas, et ça m'a fait me poser des questions. Je n'ai eu aucune réponse formelle, mais ça m'a fait réfléchir à la place de l'art qui est entièrement différente selon les cultures.
Votre regard aujourd'hui sur la création théâtrale ?
J'en ai peu parce que j'écris la nuit et que donc je vais peu au spectacle. J'en vois quand on est en tournée, qu'il y a des festivals et que j'ai des amis que je suis, des spectacles que je vais voir. Mais je ne peux pas dire que j'ai un regard sur la création théâtrale.
Vous n'aimez pas aller voir le travail de vos confrères ?
J'aime beaucoup, mais c'est une question de temps. Si j'écris de 9h à 4h du matin, c'est à peu près les heures où se jouent les spectacles. Donc c'est difficile à la fois de diriger la compagnie, écrire les spectacles, diriger les répétitions, être d'attaque pour les rendez-vous le lendemain. Et puis après, c'est vrai aussi que si je vois un spectacle qui me nourrit, ça me nourrit pendant très longtemps et que je serais incapable d'aller voir des spectacles tous les jours et d'accumuler comme ça des expériences différentes.
Et qu'est-ce qui nourrit votre travail d'écriture justement ?
La vie, beaucoup. La vie de la troupe aussi. Et puis ensuite, c'est des lectures, des musiques, des tableaux. C'est pas spécialement le théâtre.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans la vie ?
Les chocs, les moments de... où il y a des failles qui s'ouvrent, où il y a d'autres univers qui apparaissent, l'impression d'avoir côtoyé longtemps des univers dont on n'avait pas conscience et qui d'un seul coup font des brèches et qui s'engouffrent, l'impression de découvrir des choses sur soi-même, par des chocs souvent, que ce soit des chocs positifs ou des chocs négatifs, que ça ouvre des failles, parce qu'il y a toujours cette sensation que j'ai très forte, qu'il y a une immense partie de nous-mêmes qui est inexplorée, qu'on n'arrive même pas à explorer, qui reste presque fermée, comme un appartement qui aurait 12 pièces et on vit dans deux des pièces de l'appartement. Où sont les clés, où sont les serrures, où sont les portes? Donc toutes les expériences qui m'amènent à entrouvrir des portes, à découvrir de nouveaux espaces, c'est tout, pour moi toujours des expériences que j'aime beaucoup.
Merci François Cervantes.
What kind of heart would a blind man choose? Would a
Alors maintenant, nous allons parler des deux spectacles, Un amour et les clowns. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Germain. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Les masques étaient posés sur la table. Je les ai regardés, j'en ai choisi un. Je l'ai pris et je l'ai mis sur mon visage. Dans le miroir, quelqu'un était là. J'avais disparu, comme dans les histoires d'enfants. C'était en 1993, le projet Masque naissait. C'est toute votre histoire que vous avez écrit là, Catherine Germain. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un masque ?
Ben c'est, effectivement, ça a été une découverte forte, parce que comme si ça avait mis l'accent sur le pourquoi de mon engagement dans le théâtre. J'ai l'impression que le masque, ça a été la révélation que, les personnages sont plus vivants que moi. J'ai une telle, peut-être, incertitude ou un questionnement sur ma propre existence que le théâtre, c'était vraiment l'occasion d'interroger la vie et les personnages, le rapport aux œuvres, et après, bien sûr, à travers tout ça, le rapport à l'autre, au public, celui qui n'est pas moi, mais qui est sans doute en lien profond avec mon intimité aussi, qui me fait comprendre qui je suis.
À partir donc de la découverte des masques, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer le personnage d'Arletty que vous incarnez maintenant depuis plus de 20 ans, je crois ?
Alors en fait, par rapport à Arletty, elle est vraiment venue dans mon travail avant les masques. Parce que la découverte du masque s'est fait, je sais plus, c'était en 93,
je crois.
Ou 93, il voilà, c'est ça. Oui. Mais en fait, le personnage, lui, est né dans un travail qu'on a engagé en 1986, même, avec François et François Cervantes. Et c'était l'interrogation, quand on a fait naître ces personnages, qui au départ n'étaient pas forcément des clowns pour lui, en tant qu'auteur, comme François est un auteur qui nous a fait découvrir le clown. On était tous vierges, et c'était pas mal, au fond, parce qu'on n'avait pas technique du clown, on pensait pas clown, on n'était pas du tout là-dedans, on était dans un théâtre en rapport avec un auteur et c'était des questions de théâtre qui se posaient et lui il nous a posé une question, donc il pose une question aux acteurs, il leur dit essayez de créer un personnage duquel vous allez tomber amoureux et il partait de l'idée qu'il y avait peut-être comme ça la possibilité de créer d'aller vers un être qui était en désir d'incarnation, qui n'était pas tout de suite présent et que le fait de le dessiner, c'était nous d'avoir envie de devenir aussi cette créature et de pouvoir, en fait, par le dessin, par le maquillage, la peinture, dessiner au fond une intériorité. Mais voilà, comme on projette des choses, on se regarde dans le miroir et on a envie de ressembler à quelqu'un, mais sans doute parce que à l'intérieur de soi, on porte profondément des questions et qu'elles se traduisent en blanc, en noir, en traits, en cheveux, en forme. Et puis tout le travail après a été d'habiter cet aspect plastique, j'allais dire. Au tout départ, c'est comme une peinture qu'on habite.
Et le personnage d'Arletty a évolué de quelle manière depuis vos débuts, hein, avec François Cervantes, l'entreprise? Je crois d'ailleurs que votre première collaboration, c'était pour une pièce qui s'appelait La Curiosité, si mes souvenirs sont bons.
Voilà. Pour le travail du clown, oui, on est né en 86, donc avec cette idée-là. Donc je parlais de l'ange tout à l'heure. Ça s'appelait La Curiosité des anges. Et on venait sur le plateau à deux clowns, donc Dominique Chevalier et moi-même. Dominique qui joue aussi dans les clowns, avec lesquels je me retrouve dans les clowns. Et on venait sur le plateau à la rencontre du public. Alors après, depuis, ça fait 23, je sais plus combien d'années maintenant, presque 24 ans, cette évolution-là, forcément, elle est parallèle à la vie artistique, à la vie personnelle, et que d'avoir créé un personnage, c'est forcément aussi un personnage qui nous crée et dans lequel on bouge, bien sûr, mais aussi nous, on le fait bouger par nos aventures de personnes.
Mais comment concrètement vous l'avez fait évoluer? Est-ce que, par exemple, dans votre tenue, dans vos expressions, vous l'avez vraiment modifié avec le temps?
Ah oui, alors non, dans la tenue et dans l'expression plastique, dans la manière d'apparaître au public, il est toujours le même, et il a été le même dès le début. Quand la question a été posée, créer un personnage duquel j'allais tomber amoureuse, évidemment, je sais pas pourquoi, il y a des gens qui trouvent, entre guillemets, on dit trouver son clown, je sais pas si c'est une expression très juste, enfin, elle est pas très belle je trouve, mais et qui peuvent mettre du temps avant de définir un maquillage qui leur irait comme ça, qui irait vraiment bien, mais ou un costume. Mais moi, le jour où il nous a posé cette question, je suis venue avec tout ça. Je suis venue habillée comme ça, avec
c'était
des
définitif.
Cheveux. J'ai été faire des... Voilà, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas pourquoi, et en même temps, je crois qu'on n'invente rien, et qu'on est touché soi-même par des choses qui viennent d'avant, bien sûr. Et je dis, j'en parle dans le livre qu'on a écrit avec François sur le travail qu'on a fait, c'est que là, je viens aussi, j'ai été très marquée par des clowns comme les Fratellini, par exemple.
Mais un clown, c'est un poète, et ça peut être aussi très triste.
Assez très triste. Je trouve que le rire, c'est terrible, parce que nous, ce qu'on fait qui fait rire les gens, au fond, c'est d'une gravité entière. C'est-à-dire que ça n'a d'intérêt que si on fait entièrement une chose. C'est comme les enfants, mais les enfants, les petits, hein, j'entends vraiment les petits, qui, quand ils font une chose, c'est l'apprentissage de la vie. Donc, devenir quelqu'un, être en train d'être dans une action entièrement, ou même faire tomber quelque chose, c'est... En soi, c'est de l'expérimentation brute. Donc, il n'y a même pas à dire c'est triste ou gai. C'est assez triste ou gai pour les gens qui le voient de l'extérieur. Pour celui qui le vit, c'est une espèce de forme de connaissance de lui, de mise à jour de lui. Donc, je ne sais pas si c'est gai ou triste, mais c'est de la vie. Ça, c'est clair.
Pour parler du premier spectacle, Un amour, vous partagez la scène avec le chorégraphe et le danseur Thierry Tunyang. Alors, comment s'est passée votre rencontre à tous les deux pour arriver donc à construire ce spectacle, puisque c'est vous-même qui l'avez mis au point?
Alors en fait, ben ça s'est passé d'une manière assez curieuse, mais Thierry est donc danseur et a invité à l'occasion d'une carte blanche au théâtre de Martigues il y a 2 ans des artistes avec lesquels il se sentait une affinité, et parce qu'on lui demandait une carte blanche, un portrait de lui-même, et il a préféré prendre 7 personnes, oui je crois environ on était 7, différentes pour intervenir, et c'était une manière pour lui de présenter au public de qui il se sentait proche, donc qui le définissait dans le panorama comme ça artistique des... Donc on était d'origine artistique diverse, mais il y avait des danseurs, des gens de théâtre aussi, Et là, je l'ai rencontré parce que moi, je le connaissais absolument pas. Mais lui avait vu le spectacle avec Arletty, qui s'appelle Le Sixième Jour. D'ailleurs, je crois même que j'étais montée sur ses genoux parce que Arletty va dans le public assez fréquemment et est très cannibale et très gourmande des gens.
Et ça l'avait traumatisé.
Ça l'avait traumatisé, je pense. Mais ça l'avait en tout cas marqué aussi, ce rapport au corps, c'est-à-dire comment bouge un clown, comment visiblement cet être-là lui communiquait à lui-même en tant que personne passionnée par le corps, le mouvement des choses. Donc, il m'a invité à cette carte blanche. Et puis moi, le rencontrant à cette occasion-là, on s'est proposé après mutuellement de faire quelque chose ensemble.
Arletty, dans ce spectacle, c'est votre lien. Est-ce que c'est Arletty qui vous permet de communiquer ?
Je crois que oui. Je crois que si effectivement Arletty va sur les genoux des spectateurs, c'est une chose que je peux pas faire moi. Enfin, je veux dire, elle a une façon de rentrer en contact direct et je pense que c'est un désir profond que j'ai de rencontrer les gens, mais je ne sais pas le faire. Et que de créer un être comme celui-là, c'est sans doute une réponse, entre guillemets, à la mise en lien avec l'autre, oui.
Vous parliez des regards que vous avez sollicités pour créer ce spectacle. Bon, François Cervantes, bien sûr, mais aussi Patrice Chéreau, Laurent Fréchuret, François Rancillac. À quel niveau sont-ils intervenus et que vous ont-ils conseillé ?
En fait, ils sont intervenus une semaine chacun. Chéreau, à la fin, n'a pas pu intervenir une semaine. Mais séparément, en fait. On a eu un moment comme ça d'isolement avec eux, où leur regard a été pour chacun très particulier, parce qu'il y en a qui ont voulu travailler sur des thèmes, d'autres sur plutôt la dramaturgie, d'autres sur un détail, d'autres sur... chacun a choisi, en fait, ce qu'il voulait. Et nous, on se laissait faire là-dedans. Et après, quand la semaine avait eu lieu, on se retrouvait, Thierry et moi, et on faisait un petit peu le bilan de tout ça pour en garder ce qu'on voulait. Il était clair, et les metteurs en scène étaient d'accord avec ça, que c'était, au fond, ils n'en prenaient pas ils ne chapeautaient pas le projet après au niveau de la mise en scène. C'était un regard porté sur un moment de la rencontre entre le danseur et le clown. Comment eux, ils pouvaient intervenir là-dedans. Chacun a donné de sa sensibilité. Ce qui était très bien, c'est que chacun l'a fait de façon très artisanale, comme on dit. Moi, voilà les outils que j'ai, je peux te donner ça. Je trouvais que c'était un dialogue très, très concret.
Quand vous arrivez tous les deux sur scène, vous souhaitez amener le spectateur vers quelle direction ?
En fait, là où on veut commencer et rendre ce projet, enfin rendre ce spectacle le plus proche du projet aussi, parce que au fond, on a du mal à se départir de cette aventure qui a été la construction d'un drôle de parcours pour arriver là, avec faire intervenir des metteurs en scène et tout ça, et d'essayer que quand ce spectacle, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un habituel hein, pour le spectateur aussi, il est dérouté là-dedans, c'est d'essayer de commencer à zéro le moment de la soirée. Et le commencer à zéro, c'est-à-dire d'essayer de commencer par deux personnes rentrant dans un espace vierge, entre guillemets, c'est pas si simple puisque le public est là, mais pour nous on rentre dans une salle vide, du moins c'est l'espace de Thierry, ce serait l'espace du danseur qui vient lui répéter, travailler sa danse, et il amène un peu comme ce qui s'est passé pour Thierry et pour moi dans la rencontre avec, quand on a eu un Marty, c'est-à-dire il vient et il me propose de venir regarder son travail. Voilà, donc c'est assez à zéro cette chose-là. Je rentre avec lui en tant que Catherine dans une salle et au bout d'un temps, effectivement, je m'absente de ce lieu parce que je ne sais pas trop comment l'aider. Comment est-ce que moi, en tant qu'actrice, je peux avoir un regard sur sa danse et qu'est-ce que je peux faire ? Et ça réveille le bouillonnement, c'est d'aller... Donc elle va s'endormir dans un coin, Catherine, forcément, je vais somnoler. Qu'est-ce que je peux faire au bout d'un temps ?
Mais c'est vrai que maintenant, vous l'expliquez, c'est très clair. Mais quand on le
reçoit,
voit,
c'est ça, oui.
on a du mal à véritablement comprendre au début où vous voulez en venir. Voilà.
Bien sûr, et je pense que le premier temps, c'est un flottement, mais c'est aussi l'envie de ne pas produire plus que ce qu'il y a. C'est-à-dire, au début, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déstabilisation. Quand deux personnes vont se rencontrer, on ne sait pas ce que l'on attend l'un de l'autre.
Mais là, ça manque peut-être un petit peu de clarté.
Oui, oui. Mais du coup, j'entends à travers ce que vous dites qu'on peut... Faut formaliser les choses aussi. Voilà, ça, j'entends aussi.
Thank you. Canto Clown qui sera joué du 16 au 27 février, dans lequel vous jouez également. Ce spectacle a été créé en 2006 par la compagnie L'Entreprise. Rappelons que pour la première fois, il réunit donc votre personnage Arletty avec deux autres clowns qui sont Zig et Boudu. Trois clowns qui apparaissent ensemble sur une scène de théâtre, ça fait quoi pour des comédiens ?
C'est une grande effervescence d'énergie et de là pour le coup effectivement des univers qui sont différents, c'est sûr, mais qui ont en même temps le même type de naissance, c'est-à-dire cette idée que ils sont eux aussi des natures artistiques, poétiques particulières, dessinées d'une manière extravagante dans leur apparence. Quand ils rentrent sur le plateau, c'est déjà un festival. Enfin, donc trois personnages comme ceux-là se rencontrant, c'est là pour le coup trois musiciens qui recréent une formation. Et pour moi, c'est vraiment comme un bœuf, quoi.
Mais rien n'a été modifié dans les personnages pour cette pièce.
Non, ils sont en fait, puisque donc Boudu, c'est Bonaventure Gacon.
Exactement, je voulais le dire.
Zig,
oui.
C'est Dominique Chevalier, donc Arletty, c'est moi-même. Et ces gens-là ont dans le clown un parcours aussi, enfin en tout cas pour ce qui est pour l'instant de Bonaventure Gacon, un parcours soliste très grand. Il joue dans Par le Boudu, qui est un spectacle qui a été joué depuis des années. Et voilà, on est plutôt trois solistes qui se réunissons pour une fête particulière. C'est aussi une rencontre, hein, d'ailleurs, parce qu'on verra, le spectacle se joue en trois étapes. Chaque clown a son univers pour lequel François a écrit et les deux autres interviennent dans cet univers. Il y a trois actes.
Alors en résumé, Boudu vit dans une grotte.
Oui, c'est vrai.
Zig et vous-même font connaissance, échangent quelques caresses et quelques coups et ils ouvrent une bonne bouteille.
Oui.
Voilà, ils descendent en ville, déambulent jusqu'à un théâtre. Et là, Arletty, évidemment, qui adore les théâtres, trouve, je crois, un texte de Shakespeare.
Voilà, qui s'appelle Le Roi Lear.
Absolument. Et là, vous commencez à réunir l'équipe et à monter la pièce, en fait.
Voilà,
c'est un peu l'histoire. Hein.
Voilà, c'est exactement ça. Ils ont petit à petit, il y a une phase de prise de contact entre ces trois clowns. Après, il y a une déambulation tous les trois. Ouais. Et puis, il y a des aventures aussi qu'on fait subir à Zig, parce que chacun a une nature particulière. Et Zig se fait un petit peu, manger par les deux autres. C'est comme les enfants, c'est cruel. Alors, il y a des passations de les deux autres se lient entre eux pour faire des blagues à l'un des protagonistes. Mais à la fin, effectivement, ils vont vers le théâtre parce qu'ils ont ils mettent à jour, encore une fois, le clown, c'est cette idée-là, des envies, des désirs. Et le désir de Arletty du Roi Lear, en fait, on joue la pièce, mais on joue surtout le désir de la jouer. Donc, ça reste toujours dans le jeu. Comment est-ce qu'on se met, alors qu'on n'est que trois, à monter une pièce pareille, parce qu'on a simplement envie de la jouer?
Et là, pour la mise en scène, c'est François Cervantes.
C'est François Cervantes qui l'a fait, oui.
Et là, comment vous avez travaillé alors pour monter ce spectacle?
Alors là, ce qui était incroyable, c'est que ce spectacle, il devait être fait pour un cabaret et il a été monté en 4 jours. Donc très court, parce que François, nous connaissant maintenant, quand on travaille le clown avec lui, il connaissait chacun des clowns, il avait vraiment écrit tout. On n'a pas travaillé sur improvisation. Il a tout écrit comme une partition de musique. Il a écrit nos trois actes et on a répété, on a appris ces partitions-là et après on les a jouées. Mais c'est vrai que, voilà, on pourrait dire, quand on regarde les scénarios comme ça, ça peut être basique, mais n'empêche qu'il savait pour qui c'était à qui c'était destiné et ça a pris corps. Et du coup, la soirée était tellement festive, on a fait ça avec des morceaux de carton, des choses récupérées à droite à gauche pour préparer cette soirée cabaret et au théâtre de Choisy-le-Roi à l'époque. Et puis ça a pris au point que maintenant, effectivement, dès qu'on le peut, parce que Bonaventure n'est pas toujours libre, il est aussi dans une expérience de cirque avec le cirque Trottola. Il est très très pris dans son emploi du temps. On essaie de trouver des temps où ce spectacle peut être joué parce que c'est une vraie fête.
Et au niveau du décor, par exemple, du plateau, là, comment vous avez construit ça ?
Eh ben là, c'est le plateau. On peut le dire aussi au départ nu, mais par exemple, le premier épisode se situe avec les éléments qu'il y a dans son spectacle de solo Boudu, qui est une grotte avec une table et une chaise dégingandée, parce qu'il est pas vraiment sophistiqué. Au contraire, c'est un sauvage. Et après, il y a des éléments qui arrivent, un frigidaire, des cartons. Et puis, pour le Roi Lear, c'est un château en carton. Il y a des choses qui sont faites vraiment avec tout ce qu'on peut trouver, on pourrait dire, dans des coulisses de théâtre et dans lesquelles les clowns se glissent. On a même des bouts de costumes, des choses.
aussi vous demander ce que vous trouvez dans Arletty, ce que le personnage vous apporte dans votre quotidien.
C'est une grande question, ça, parce que forcément, il a changé complètement ma manière, sans doute, de me présenter à l'autre, d'être là, et surtout...
Il vous sert, le personnage vous sert dans la vie ?
Énormément. La reconnaissance d'un travail comme celui-là, c'est l'envie d'être toujours au plus près d'une vérité de sensation ou de rapport aux autres. C'est vraiment la mise à nu de quelque chose. Donc après, on a une attitude ou un comportement qui est poli ou travaillé ou érodé, si on peut dire, parce que des fois c'est bien de s'user, par toute cette mise à jour. Parce que, comme ça, dans le rapport au public, d'une vérité permanente, physiquement, mais le corps, c'est large pour moi, c'est à la fois l'esprit et le corps, donc c'est un travail qui rassemble l'être, et donc être rassemblé, c'est une chance, oui.
Merci Arletty, ou merci Catherine.
Oui.
Et à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Alors, je voulais également rappeler la parution du livre... Le clown Arletty, 20 ans de ravissement, de François Cervantes et de vous-même. Un témoignage donc sur 20 ans de collaboration entre l'auteur et l'actrice, mais aussi sur la naissance évidemment de votre personnage. Enfin, la compagnie L'Entreprise est lauréate des mécènes du Sud pour la création d'une autre pièce qui est le dernier quatuor d'un homme sourd. Éteignez vos portables, c'est fini pour aujourd'hui, mais surtout prenez date pour ces deux spectacles, Un amour du 2 au 13 février et Les clowns du 16 au 27 février, au théâtre Massalia de la Friche de la Belle de Mai dans la salle de la cartonnerie. Renseignements et réservations au 04 95 04 95 70 ou sur www.theatremassalia.com. Spectacle tout public à partir de 11 ans. Une bonne idée donc de détente pendant les vacances d'hiver. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.grenouille888.org, sur la page Éteignez vos portables. Tout comme très bientôt sur la même page, une sélection mensuelle de spectacles à ne pas rater à Marseille, dans la région, mais aussi quelques incontournables si vous faites un saut à Paris. Bon spectacle et belle découverte !